minutes.
Ouellette.
En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
C'est un grand jour aujourd'hui, mais on le savait pas. La majorité des gens n'ont pas pensé à ça, mais c'est une grande journée, puis on va aller découvrir ça avec, avec notre chroniqueur Vincent Gelozo, qui est là. Monsieur Gelozo, d'abord, vous êtes salué, bonjour.
Bonjour.
Deuxièmement, hier, je cherchais des sujets à envoyer à Vincent, puis là, j'ai envoyé une affaire. Je veux-tu parler de ça? Il dit non, attention, là, demain, c'est une grande journée. Je te laisse l'annoncer. Attention, les gens sont pas prêts, là.
Ben oui, écoute, c'est la journée que Radio-Canada ne reçoit pas de subvention. Non, c'est pas vrai.
J'ai eu le cœur m'arrêter un peu, là.
Ah, écoute, je me suis gâté. Mais en fait, aujourd'hui, c'est le jour que les Canadiens célèbrent la journée de libération fiscale. Donc, ce que c'est la journée de libération fiscale, c'est la journée dans l'année qu'une personne, si elle devait payer en commençant l'année, que ses impôts et ses taxes au gouvernement, à partir de quel jour dans l'année elle se mettrait à travailler pour elle-même. Mais pour l'ensemble des Canadiens, cette journée-là, c'est aujourd'hui, c'est le 9 juin. Et donc, signifiant qu'une famille canadienne a travaillé du 1er janvier au 8 juin uniquement pour payer ses taxes et impôts. Et malheureusement, au Québec, cette journée-là est dans quelques semaines. C'est le 27 juin, en fait, que ça va se passer au Québec.
Et en Saskatchewan, je pense que c'est ceux qui le célèbrent le plus tôt. C'était au mois de mai, là, eux autres. Là. C'est déjà fait, eux autres.
Exactement. Puis bien sûr, si tu regardes depuis les années 80, la date a été repoussée graduellement d'année en année. Mais c'est un concept simple ici. C'est pas particulièrement sorcier comme le jour de la libération fiscale. Ce que ça dit, c'est si tes impôts étaient payés d'avance, jusqu'à quelle date tu travaillerais.
Mais c'est fou. Non, mais quand tu y penses, parce que là, imaginez, souvenez-vous, là, fermez-vous les yeux, sauf si vous êtes en auto, là, puis imaginez-vous, 1er janvier, là. 1er janvier, il y a de la neige, il y a 6 pieds de neige, on souhaite bonne année, on vient de finir le bye-bye. Là. Ben, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il fait 28 degrés dehors, là, ben, vous avez travaillé juste pour le gouvernement. T'sais, c'est quand même...
Ouais, ça inclut ton impôt sur le revenu, les taxes de vente, les taxes foncières, les cotisations scolaires, si vous êtes dans un district qui en a, donc dans certaines provinces, il y en a aussi, mais les taxes sur l'essence et aussi l'impôt sur les entreprises qui sont répercutées au ménage. Donc, tu payes, sans le savoir, les travailleurs payent une partie du coût économique des taxes sur les entreprises, puis c'est pas une partie négligeable. Puis ça tient même pas compte des déficits. Parce qu'éventuellement, il faut que tu tiennes compte des déficits, parce que un déficit, c'est des taxes futures que tu vas devoir payer. Si tu tiens compte des déficits, tu dois attendre jusqu'au 8 juillet au lieu. Donc, ça a quand même une certaine importance.
Je regarde, ça remonte dans les tableaux. Là, je suis en train de regarder l'étude complète. On remonte jusqu'en 1981, où on apprend qu'au Québec, c'était déjà passé. Là. Donc, au Québec, en 1981, on travaillait pour l'État jusqu'au 7 juin. C'est 20 jours de plus à payer des taxes, des frais et des impôts. C'est capoté, pareil.
Ouais. Ouais, mais apparemment, il y a eu une vague d'austérité au Québec qui était sans précédent. C'était sarcastique, mon commentaire. Mais le point ici, c'est que cette statistique-là est pas... Franchement, moi, je la trouve pas particulièrement intéressante comme économiste, parce que ben, pour moi, c'est juste dire la proportion de tes revenus que tu payes en impôts. Par contre, il y a quelque chose derrière ça qui est peut-être plus intéressant que la statistique en soi, c'est à quel point on n'est pas conscient. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Ouais. C'est à quel point on n'est pas conscient du fardeau fiscal qu'on a. Premièrement, parce que il y a plusieurs types de taxes différentes qu'on paye, mais aussi les gens ne voient pas facilement qu'est-ce qui est cotisé à même leur paye. Ils se sont habitués à leur paye brute qui est regardée. Je pense pas que les gens regardent leur T4, j'allais dire le W2 parce que je vis aux États-Unis, mais ils ne regardent pas leur T4 ou leur... j'oublie le chiffre pour le Québec, mais ils ne regardent pas...
Leur revenu le détail,
ils ne regardent pas le total de ce qui s'est passé. Ouais. C'est rare que vous regardez votre pay stub toutes les semaines en détail.
Ben non, mais moi, je ne le fais pas parce que ça fait mal. Là. Maintenant, j'aime me faire violence, mais pas trop. Là.
Ben, exactement. Mais le problème, c'est que les retenues à la source ont un effet sur notre perception du fardeau fiscal. Et en fait, quand tu regardes un peu l'histoire de ça, des retenues à la source qui sont faites sur vos chèques de paye, c'est en fait venu d'un économiste très libertarien qui s'appelait Milton Friedman, qui avait participé à la conception de ça. Puis il a dit que c'était probablement la pire chose que lui avait faite dans sa vie parce que les gens perdaient conscience du fardeau fiscal. Parce qu'avant, les gens payaient leurs impôts, t'arrivais à la fin de l'année, et tu avais une facture qui t'arrivait de qu'est-ce que tu devais payer. Et là, c'était un gros montant. Tu n'avais pas eu des petites déductions tout le long de l'année. Tu avais un gros montant à payer. Et ce que tu devais faire, c'est établir un plan de paiement sur l'année où tu pouvais acheter. Dans le temps, il y avait des bons du Trésor qui étaient des bons où est-ce que tu payais un petit peu chaque mois, mais c'était pour comme tenir compte des paiements que tu allais faire dans l'année. Tu avais des manières de faire ça, mais ça créait chez les gens une compréhension beaucoup plus complète du fardeau fiscal qu'ils devaient payer et donc une plus grande résistance politique à est-ce que mes impôts sont vraiment utilisés pour des programmes publics qui sont justifiables, donc des écoles publiques, des systèmes de santé, ou est-ce que c'est utilisé à subventionner Nordvolt, ou est-ce que c'est utilisé à aider telle ou telle industrie? Et la raison, donc, moi, je voulais parler de cette journée de la libération fiscale, c'est pour que les gens comprennent un peu à quel point vous en payez de l'impôt à plusieurs niveaux, puis à quel point peut-être vous devriez revenir un peu à ce qu'il y avait avant, au minimum en termes de mentalité, pour que vous posiez la question, est-ce que vraiment ce qu'on obtient, c'est valeur pour l'argent dépensé? Et est-ce que vraiment certaines fonctions qui sont faites sont vraiment nécessaires pour qu'il y ait une sorte d'imputabilité démocratique via le fait qu'on voit discrètement, qu'on voit sérieusement le fardeau qu'on paye?
Je remarque aussi dans l'étude, puis ça, on le sait, mais c'est bien des fois de se le rappeler, là, que le Québec n'est pas parmi les plus riches. Donc, sur le salaire, on parle de « average family incomes », donc de revenus moyens familiaux au Québec de 152 000, alors qu'au Canada, c'est 166 000, tu fais la moyenne des autres provinces. Exemple, en Ontario, c'est presque 180 000. Tu as du 164 000 en Saskatchewan, 172 en Alberta, 172 au BC. Donc, non seulement on est ceux qui vont célébrer cette journée de libération-là le plus tard, donc comme tu dis, quand même dans quasiment 20 jours là, de plus que les autres, et on est ceux qui gagnent pas tant que ça non plus. Est-ce que le Québec fait bande à part quasiment dans ce calcul-là? Parce qu'on est loin, loin devant tout le monde.
Il ne faut jamais oublier que... Écoute, aux
États-Unis, on a un panier de services?
Non. Aux États-Unis, il y a une joke qui dit « Thank God for Mississippi », qui était le fait que si tu performes mal dans quelque chose, tu peux te rassurer. Il y a toujours le Mississippi qui fait pire que toi. C'est plus vrai depuis quelques années, mais c'était une farce récurrente. Au Canada, on a une ou deux provinces qui font la fonction que les Américains ont avec. C'est qui font la fonction du Mississippi, c'est l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse ou l'île du...
Ouais, les Maritimes, puis après, c'est le Québec.
Les trois provinces maritimes, donc pas la Terre-Neuve depuis quelques années, mais les trois autres provinces maritimes, eux font un peu la fonction de Mississippi. Donc, on n'est pas les pires au Canada, mais on est définitivement en fin de peloton.
Ben, si t'enlèves les maritimes, on n'est pas là. Tu sais,
c'est ça. Si t'enlèves les maritimes, c'est sûr que je suis pas sûr que les maritimes aiment ça être enlevés, mais là, faisons pas de joke ici. mais le point, c'est que c'est quelque chose que tu as dit très rapidement. Je ne pense pas que les auditeurs vont l'avoir saisi parce que je suis sûr que pour toi, c'est évident, mais les Québécois payent plus en impôts que les autres Canadiens. Si tu prends juste le montant monétaire, donc tu dis, OK, c'est pas juste qu'on paye une plus grande proportion, c'est qu'on paye un plus grand montant malgré qu'on fait moins en termes de revenus.
Mm-hmm.
Donc, tu prends la famille typique. Donc, l'étude, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a un simulateur fiscal et elle prend la famille typique. La famille typique au Québec fait à peu près 153 000. La famille typique dans le reste du Canada fait 167 000. Mais malgré cette différence-là, qui est quand même presque 15 000 $ de différence, la famille québécoise paye à peu près 1 000 $ de plus en taxes et en impôts que la famille canadienne qui est plus riche qu'elle.
Est-ce que le Québécois moyen est au courant de ça? Puis t'as bien fait de le redire, bien exposé, là, mais je suis pas certain même qu'on s'en rend compte.
Non, effectivement. Puis il y a deux raisons. C'est que les Québécois, historiquement, à cause de la langue, ne sont pas aussi mobiles. Ouais. Donc, ils sont moins capables d'imposer, de considérer les effets de la migration interprovinciale ou même la migration internationale. Donc, ça réduit un peu le désir de regarder la compétition fiscale qu'il peut y avoir. Donc, ça veut dire qu'aussi, en résultante de ça, c'est qu'il y a une moins bonne compréhension du différentiel entre nous et les autres. Il y a une compréhension, je ne dis pas qu'il y a zéro compréhension, mais une compréhension plus précise va toujours un peu éluder les Québécois de cette manière-là à cause de cette espèce de barrière linguistique. Mais l'autre aussi, c'est que le système fiscal est conçu pour être puis c'est une vieille joke, c'est le point de la taxation, c'est de raser le mouton sans lui enlever sa peau.
Ouais.
C'est qu'il ne faut pas qu'il résiste. Il y avait une autre phrase d'un ministre français, c'est toujours des Français qui font ces citations-là sur la taxation. C'est, le point de la taxation, c'est aussi de faire en sorte que prendre le plus possible à loi sans qu'elle crie. Le système fiscal est conçu souvent pour minimiser sa transparence et sa visibilité. Les déductions à la source, les retenues à la source que les gens payent réduisent la saliance de ce qu'ils ont à payer pour les gens, donc c'est plus difficile à voir. Mais il y a aussi un paquet de taxes que vous ne voyez pas, des taxes d'assises sur des biens, qu'en fait, c'est le producteur qui paye, mais finalement, ça se retrouve incorporé dans le prix. Il y a des taxes que vous payez indirectement parce que, par exemple, les taxes sur les entreprises, les gens pensent que c'est des entreprises qui payent ça, mais les entreprises ne payent pas ça, c'est généralement les travailleurs qui payent. Parce que le capital peut s'enfuir. Si le capital peut s'enfuir, il y a moins de demandes de travailleurs. S'il y a moins de demandes de travailleurs, vous avez des salaires plus bas. Donc, vous avez un effet pervers sur les salaires. Donc, vous payez ces taxes-là par des moyens détournés. Maintenant, parce que c'est difficile à comprendre pour la plupart des gens, parce qu'on n'a pas le temps de tout regarder juste parce que l'être humain étant une créature qui a plusieurs besoins qui se font concurrence à n'importe quel moment, tu n'essaies pas de tout comprendre. Mais l'entièreté de ce qu'on paye et des coûts économiques de la taxation sont très difficiles à voir. Même des experts, en fait, ont de la difficulté à les mesurer avec précision. C'est même pas une question d'expert contre inexpert, c'est que c'est tellement complexe comme système. Puis c'est pour ça que la statistique, je le réitère, la statistique de la journée de la libération fiscale est utile et pertinente. C'est qu'au moins, ça vous donne un chiffre.
Ouais.
Un chiffre.
Ça vous donne une idée de l'ampleur.
Une idée de peut-être que. Au moins, ayez l'introspection de vous poser la question, est-ce que vraiment ça vaut la peine ce qu'on paye pour? Si vous dites oui, c'est pas un problème. Je suis même pas en train de dire, je vous demande même pas une conclusion. Je vous demande juste d'utiliser ça pour un système de compréhension de qu'est-ce qui est fait quand vous faites l'évaluation. Parce que la plupart des gens, quand on leur demande leur fardeau fiscal, ils ont une tendance à sous-estimer plus qu'autre chose ce qu'ils ont à payer, surtout même au bas de l'échelle.
Puis là, en terminant, ça, vu qu'on est au Québec, des fois, c'est un peu encore une petite sauce de plus. J'imagine que ça inclut pas ça, les impôts volontaires que sont la SAQ, Hydro-Québec et tout ça, là.
Écoute, comme économiste, j'ai de la difficulté à appeler ça un impôt volontaire. Je comprends où est-ce que tu t'en vas, mais en tant que tel, c'est la SAQ, même si tu trouves que le service est pas bon. Puis j'ai aussi un disclaimer qu'il y a des membres de ma famille qui travaillent dans le monde de l'alcool. Fait que je fais toujours le disclaimer pour que les gens soient conscients qu'il y a un potentiel conflit d'intérêts.
Oh, oui.
Mais si tu achètes à la SAQ, tu achètes littéralement un service. Donc, j'appellerais pas ça une taxe et impôt. C'est un revenu de l'État. Si l'État fait un revenu net de ça, c'est parce qu'il peut-être il surcharge comme en statut de monopole ou il perd de l'argent en offrant des services qui sont payés par les contribuables autrement. Donc, je le verrais un petit peu différemment. C'est pour ça que je n'appellerais pas ça un impôt volontaire.
Mais mettons qu'on rentre ça là-dedans. D'après moi, notre Liberation Day est fin juillet.
Peu importe qu'est-ce que tu veux rajouter, le chiffre, le Québec performe pas super. la conclusion change pas.
C'est une belle conclusion. On arrête ça là. Merci, Vincent.
comme disait Dunlop à McCracken.
Je paye de l'impôt quand j'ai le temps. Merci.
Non, ça, il n'y a pas de choix là-dedans. Tu le payes et tu t'ostines pas.
Ouais, c'est ça. C'est pas quand j'ai le temps, c'est quand il le faut.
C'est ça.
Salut, bonne journée. Bye.
Salut.
14h14, quand j'ai le temps, ouais.
Ouellette, en direct.
Radio.